Mesdames, Messieurs, bonjour. La question posée, la coopération transfrontalière dans le domaine du bois est-elle un choix ou une nécessité? Telle est la question assez difficile que m'a posée Claude Aiguille, président de l'IGNOM, président du comité d'organisation. En plus, mon collègue Roger Bert et Claude Aiguille ont un petit peu sabordé mon introduction en parlant des rencontres qui ont eu lieu il y a 2 ans au pôle bois de Rumilly. Mais c'est vrai que c'était une des questions qui ont été abordées dans ce cadre-là. Une première réponse, a priori, je dirais, les deux réponses sont opportunes, on peut dire un choix ou une nécessité. Mais qu'est-ce qui peut conduire, en fait, à trouver une piste pour ça? Lors de cette rencontre à Rumilly, il a débouché un mandat du Conseil du Léman qui a été donné à 3 organes de promotion du bois. Le pôle bois d'excellence bois pour la Haute-Savoie, le CEDOTEC pour la Suisse romande et la FIBOIS de l'Ain pour l'Ain. Et pour réfléchir en fait à ces échanges et comment développer ces questions-là. Dans ce cadre-là, il y a différentes mises en situation. Et je veux reprendre quelques chiffres qui mettent en contexte notre région. Et puis la position de Genève dans ce cadre-là. Le périmètre de l'étude, c'était les 2 départements et 3 cantons, Vaud, Valais et Genève. C'est 3 millions d'habitants, dont 17% qui habitent à Genève. La surface, 6200 km. Genève, 30 km carrés, c'est moins de 5 pour 1000 de la surface forestière de la région. 1,2 million de mètres cubes de bois qui sont exploités chaque année, 1% à Genève. Et 20 000 personnes, monsieur le sénateur a parlé de l'importance économique, 20 000 personnes travaillent dans la filière forêt-bois dans cette région, dont 900 à Genève. Si on regarde de manière plus détaillée, 90% des salariés de la filière forêt-bois sont dans la deuxième transformation, menuiserie, charpente, agencement, ameublement. Mais si on regarde encore, ces 20 000 emplois sont répartis sur 5 600 entreprises. Donc, à côté de quelques grandes PME, c'est majoritairement des très petites entreprises, moins de 4 employés ou personnes qui travaillent en moyenne. C'est quand même une caractéristique particulière. L'objectif de l'étude, même si on n'a pas encore tous les résultats, il y a un premier rapport qui a été livré au mois de juin, c'était quelles sont les relations existantes, quels sont les marchés, les freins, les opportunités de l'accroissement des relations au niveau institutionnel, quels encouragements, qu'est-ce qui se passe, et quelles sont les pistes de travail pour renforcer. 3 domaines sont ressortis de la première étude. Les flux commerciaux, les freins et risques, et la perception que les gens se font de cette filière. Et je trouvais assez intéressant de voir comment, par rapport à la question qui était posée, les gens se représentent la filière et où ils sont projetés dans l'étude. Au niveau des flux commerciaux, les produits bruts et la menuiserie ont plutôt tendance d'être dans un flux qui va de la France en direction de la Suisse. Sur les questions de charpente, construction en ossature bois, aussi toutes les questions d'ingénierie, là on est plutôt quelque chose qui est assez égal. Alors je ne peux pas vous dire si ça passe beaucoup ou si c'est chacun dans son domaine. Et puis les produits semi-finis, panneaux, lamellés, ainsi que les aménagements haut de gamme, on a plutôt un flux qui va de la Suisse vers la France. Les freins, risques qui ont été mis en œuvre, mis en évidence, les cadres réglementaires, les éléments douaniers. Et c'est intéressant de voir que des deux côtés, ça paraît très complexe ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. La compréhension du régime institutionnel propre à chaque pays est un élément, en tout cas technique peut-être, ça sera à approfondir, psychologique certainement. L'évolution des taux de change ressort aussi comme étant un des freins dans ce domaine-là. La question de la notion de la filière, comment est-ce qu'on se représente? Un élément qui est important, c'est qu'il existe, il y a des contacts, donc il y a bien une filière, elle est portée, à côté de son existence physique, parce qu'il y a bien du travail et des produits qui sont manufacturés. Il y a un intérêt à intensifier ces relations et un besoin de rencontre entre les partenaires pour le bois, mais a priori pas très présent et pas mis en avant de manière forte. Ces constats, pour moi, à la lecture du premier rapport, donnent l'impression que la collaboration, elle est appréhendée prioritairement sur le volet commercial, à savoir quel segment de marché voisin peut permettre à quelle entreprise de vivre ou de se développer. Donc, c'est plutôt un marché commercial et ce n'est pas forcément la filière et son existence fonctionnelle qui a été discutée et mise en avant. Quelques citations permet de donner un éclairage. Le premier, les échanges ne se feront que sur des produits de qualité et différenciés du sur-mesure. Sur les produits standards, les entreprises ne sont pas compétitives. La concurrence des bois allemands et autrichiens étant trop forte. Au niveau de la deuxième transformation, pour les entreprises françaises, le marché français est suffisamment porteur pour que le marché suisse ne soit pas une priorité. Les entreprises semblent plutôt en veille, elles sont intéressées à la collaboration, mais il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus. Et puis un constat, c'est que c'est une filière forêt-bois régionale, elle est paradoxale. La ressource forestière, vous êtes tous convaincus, régionale, en France et en Suisse, est disponible et elle est croissante, il y a de plus en plus de bois. La demande, elle est aussi croissante, mais le potentiel, il reste fortement sous-exploité. Pour la suite de cette étude, l'objectif était de travailler au renforcement des échanges, mieux se connaître, et comme ça a été dit, ça a été un des ferments pour proposer les rencontres Woodrise. En conclusion, si on reprend la question de départ, la coopération transfrontalière dans le domaine du bois est-elle un choix ou une nécessité? Je continue à dire que c'est une option de réponse qui est possible les deux, mais je pense surtout que la coopération transfrontalière dans le domaine du bois est un choix nécessaire. Il faut qu'on ait la détermination de le faire ensemble. Un choix nécessaire pour augmenter globalement la part du bois utilisé dans tous les segments possibles, construction, aménagement, énergie. Pour augmenter la part du bois transformé dans la région, cycle court, valorisation des compétences, augmenter aussi l'utilisation du potentiel de production des forêts de la région, puis augmenter la capacité de la filière forêt-bois régionale à répondre à la demande croissante et à ne pas laisser la place à d'autres fournisseurs ou pire à d'autres produits. Et puis là, je vais faire une petite parenthèse. On a construit maintenant, il y a 5 ans, une esplanade le long du jet d'eau à Genève, 4 mètres de large sur 300 mètres de long, en chêne massif. On a voulu le construire évidemment en chêne genevois. On a réussi à mettre 10% en chêne genevois. On s'est dit on va faire régional. On a réussi à mettre encore 30% de chêne neuchâtelois, en s'adressant à Sierre Suisse dans le Jura. Mais le reste, on a dû aller le chercher à Eurochêne. Il était européen, mais voilà. Donc notre capacité propre à fournir dans un délai donné un produit d'une certaine qualité, elle est difficile. Et ça, c'est un des enjeux à répondre. Une autre question, M. Egui soulevait, quelle est la collaboration au niveau forestière? Je pense qu'il y a deux réponses. Une, je pense que M. Junot a parlé de la sylviculture, et puis vous avez parlé des propriétaires forestiers. Au départ, il n'y a peut-être pas forcément au niveau de la forêt, dans l'acte au quotidien du sylviculteur et de la gestion forestière, d'une grande collaboration, puisque en fait, c'est quelque chose de personne. Il y a un propriétaire, il y a des enjeux locaux de ce qui est perçu. Et il y a des compétences qui sont celles de regarder comment évolue la forêt et faire le mieux pour son évolution, et pas forcément pour sortir le produit X à un moment donné. Pour ça, dans l'acte au quotidien, la collaboration, elle n'est pas à très large échelle. Par contre, sur la connaissance, la formation, l'information, je pense que ça, c'est une évidence. Et là, je dirais qu'elle existe déjà, en tout cas de notre point de vue. Les chênaies en Suisse, on n'en a pas beaucoup. Donc, où est-ce qu'on a été chercher pour faire les plans de gestion des forêts genevoises, des 3000 hectares? Eh bien, c'est l'association Forêt Irrégulière qui nous aide dans ce cadre-là, qui nous aide à nous former. Il y a aussi des projets sur les arbres formicables où on est en transfrontalier. Donc là, sur l'échange d'expériences, partager, discuter, se donner des informations, aller visiter comment sont gérées ces forêts. À ce niveau-là, il y a déjà toute une partie de collaboration qui existe. J'en arrive à la conclusion. Pour finir sur un paradoxe, il n'y a pas que la filière forêt-bois qui est paradoxale, mais aussi ma présence maintenant, pour justifier pourquoi l'inspecteur cantonal de moins de 5 pour 1000 des forêts se permet de parler de la filière bois. Je rappelle, Genève, c'est 17% des habitants de cette grande région forestière. L'agglomération va continuer avec un fort développement. Dans ce développement, le bois, il a un rôle important à jouer au niveau écologique et économique. Donc le développement de la demande d'utilisation de bois doit donc nécessairement être accompagné du développement de la coopération et d'un renforcement de la filière bois. À cette fin, il faut poursuivre les échanges et faciliter les contacts. C'est justement un des objectifs des rencontres Woodrise. Donc profitons de ces quelques jours pour faire ces échanges.
Ces rencontres ne sont pas là pour ronronner de satisfaction, mais pour également mettre en exergue ce qui reste à faire. Et il est vrai que depuis qu'on a initié cette rencontre sur le pôle excellence bois de Rumilly, les choses ont bougé, mais très, très tranquillement. Très, très tranquillement. Et je dis très clairement, pour avoir pris cette initiative, j'aurais souhaité que ça aille tout de même un peu plus vite. Et pour aller encore un peu plus loin, j'ai même une certaine déception. Parce que si vraiment on a la volonté, les discours transfrontaliers, on connaît. Mais à un moment donné, il faut dégager dans son agenda du temps pour cela. Et on fait ça maintenant quand on a fait tout le reste, que l'on considère beaucoup plus important. Et indiscutablement, à la limite, Roger Baer, qui travaille sur le rapport, si le rapport doit être mauvais, sortez-le. N'attendez pas qu'il soit bon, ça risque de prendre trop de temps. Et c'est en sortant même un mauvais rapport que vous avancerez. Autrement, on se dit, on se revoit une fois à Lausanne, une fois de l'autre côté, etc. On n'est pas des touristes dans cette affaire. On n'est pas des touristes. Et véritablement, il y a à reprendre le sujet sur le plan transfrontalier. Il y a eu quelques remarques maintenant concernant la dimension environnementale. Si on parle de nos forêts dans leur globalité, elles jouent un rôle considérable sur le plan du climat et de l'environnement. C'est donc à partir de là que notre réflexion et le rapport doit partir. Qu'apportons-nous sur cet espace forestier ? Et vraiment, merci messieurs de vos interventions. Elles mettent en exergue des choses qui sont extrêmement positives, des projections comme notre ami Russell a fait vers une forêt du futur. Mais pour avoir cette forêt du futur, faut-il encore avoir des comportements qui soient un peu différents que ceux que nous avons aujourd'hui ? Merci messieurs, on passe à la table ronde suivante.